Radio Open FM. L'Europe et nous, infos, conseils et actu. Passez à l'heure européenne avec la Maison de l'Europe en Limousin.
Et Jean-Pierre Foultier qui est avec nous comme chaque semaine. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour.
Et vous êtes notre guide, hein, on le sait depuis deux semaines maintenant, des musées européens. Vous aviez intitulé d'ailleurs votre dernière chronique « L'art exposé ». Comment se nomme donc celle de cette semaine ?
Le savoir au musée. Car les musées, ceux d'Europe comme d'ailleurs, ne sont pas seulement consacrés à la peinture et à la sculpture.
Alors, ce qui veut dire que vous allez nous parler de musées, d'histoire, de sciences,
d'ethnologie ou encore des musées des techniques ou des traditions populaires, et surtout de ces musées dits d'histoire naturelle, les seuls pour lesquels on utilise encore le terme latin d'origine de muséum, comme notre muséum national d'histoire naturelle du Jardin des Plantes à Paris, avec ses squelettes de mammouths ou de dinosaures. Là encore, comme nous l'avons dit, des musées d'archéologie ou des beaux-arts, c'est le passé expansionniste et parfois colonial de certains pays d'Europe qui explique la présence sur le sol européen de ces vestiges ramenés des contrées les plus éloignées par des savants français, anglais, allemands. Les tintinophiles se rappelleront la scène du début de Tintin et l'oreille cassée, dans laquelle une statuette Arumbaya est dérobée au musée ethnographique de Bruxelles. Car les musées en général ont beaucoup servi l'inspiration des écrivains et des cinéastes qui y situent des scènes emblématiques. Souvenons-nous de Belphégor et plus récemment du Mystère de la salamandre d'Adèle Blanc-Sec, la BD de Tardy, ou du film La nuit au musée, entre multitudes d'autres.
Voilà, à venir peut-être pour certains. Ces musées ont donc, en tout cas pour fonction, de diffuser finalement un savoir.
Oui, car depuis le XVIIIe siècle, au cours duquel beaucoup de ces musées ont été construits en Europe, on attache de l'importance à la diffusion du savoir scientifique en particulier, qui correspond aussi à une curiosité de plus en plus grande de la part d'un public attiré par le merveilleux et l'exotisme des sujets exposés. Les plus importants de ces musées ont en fait une triple vocation. D'abord, de rassembler et conserver dans des collections les objets exposés, que ce soit des squelettes d'animaux, des outils ou des objets liés à une civilisation. C'est ensuite de développer la connaissance scientifique. Souvent, des savants chargés de recherches fondamentales ou appliquées sont rattachés à ces établissements. C'est enfin une mission de vulgarisation et de pédagogie, en direction notamment du jeune public. Et nous noterons à ce propos que nombre de musées d'Europe se sont adaptés à cette mission en développant des approches très ludiques de la connaissance.
Alors, question, il y a beaucoup de choses à voir dans ces musées, mais d'où proviennent ces fameuses collections de musées scientifiques ?
Ils ont été souvent alimentés, nous l'avons dit, par les, disons, les récoltes effectuées par les grandes expéditions scientifiques du XVIIIe siècle, puis au XIXe, par les conquêtes coloniales de plusieurs pays européens. L'anglais James Cook, par exemple, à la fin du XVIIIe siècle, a rapporté des objets ethnographiques d'Australie ou de Nouvelle-Calédonie, objets que l'on retrouve ensuite au British Museum et dans d'autres musées européens. Ils sont aussi, et ils sont en cela une originalité européenne, les héritiers de la tradition des cabinets de curiosité qui ont fleuri en Europe depuis leur naissance.
Alors on va peut-être s'arrêter sur ce terme de cabinet de curiosité qu'on a déjà entendu, on ne sait pas forcément bien ce que c'est.
On appelle comme cela des pièces, parfois de simples meubles, dans lesquelles des propriétaires savants ou curieux ont entassé des choses rares, nouvelles et singulières, comme les définit le dictionnaire Littré. Ce sont des mélanges hétéroclites de minéraux, d'herbiers, d'animaux empaillés, d'outils, d'objets d'art ou de décoration, d'instruments scientifiques, d'objets exotiques, souvent de vrais capharnaüm, parmi lesquels se trouvaient des raretés que les musées ont parfois recueillies. Certains de ces cabinets de curiosité étaient remarquables. On les appelait studioli en Italie, comme le Studiolo de Médicis, ou cabinet d'art et de merveilles, comme celui de l'archiduc Ferdinand II en Autriche. En Angleterre, des collectionneurs privés avaient constitué de riches collections de plantes qui ont constitué un fonds précieux pour le Muséum d'Histoire Naturelle de Londres.
Bon, et comme la semaine dernière, je vais pas être très original, mais j'ai envie de vous demander, parmi tous ces musées du savoir, lesquels vous avez, vous, envie de nous conseiller de visiter ?
Sans aller trop loin, on peut commencer par le Muséum d'Histoire Naturelle du Jardin des Plantes à Paris, juste en face du terminus de la ligne Limoges-Austerlitz.
Si on arrive à trouver un train qui roule.
Pour ce qui est de l'ethnographie, le Musée de l'Homme et le Musée du Quai Branly à Paris, mais aussi le British Museum de Londres, le Musée ethnologique de Berlin, ceux de Rotterdam ou d'Amsterdam aux Pays-Bas, et si l'on veut aller plus loin, celui de Saint-Pétersbourg. Mais comme ces chroniques ont pour cadre l'Europe, je signalerai pour terminer l'existence depuis 2017 d'une maison de l'histoire européenne, un musée du savoir européen en quelque sorte, qui a trouvé sa place dans le quartier européen de Bruxelles. On peut y voir des expositions présentées dans les 24 langues de l'Union européenne. Actuellement et jusqu'au 29 février, une exposition intitulée « Jeunesse rebelle, grandir en Europe depuis 1945 ».
Il est sorti peut-être pour les prochaines vacances scolaires. Quant à nous, la semaine prochaine au programme ?
Nous verrons comment les musées évoluent et comment l'idée même de musée recouvre des réalités fort différentes.
Et ça se passe la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, bonne semaine !
Bonne semaine !
C'était l'Europe et nous, info, conseils et actu, pour construire ensemble la communauté européenne de demain. Avec la Maison de l'Europe en Limousin, 51 avenue Georges Dumas à Limoges, 05 55 32 47 63 et sur le www.europe-limousin.eu.